Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'association des anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre a été créée en 2004. Au départ, ils étaient quatre à avoir servi l'armée française en Algérie et à vouloir dénoncer la folie, la barbarie de cette guerre et, en passant, de toutes les autres. Depuis, la 4ACG a rassemblé plusieurs centaines d'anciens soldats qui tous acceptent de suivre la même règle assez étonnante, reverser leur pension d'anciens combattants à des associations humanitaires en Algérie et dans d'autres pays en guerre. Les membres de la 4ACG se rendent également dans des établissements scolaires pour, explique leur site, transmettre ce qu'ils ont vécu et ne veulent plus revivre et sensibiliser les jeunes aux abus commis pendant la guerre d'Algérie, je cite. Gilles Champin, lui, est membre de cette association. C'est un paysan à la retraite, il a 80 ans et il vit désormais avec son épouse dans un pavillon proche de son ancienne ferme à La Buffière, en Vendée. Gilles est un ancien de la guerre d'Algérie. Pendant longtemps, il est resté seul face à ses souvenirs, d'autant plus seul qu'en Vendée, on n'a pas vraiment l'habitude de critiquer l'armée française. Pas plus que de parler des actes de barbarie et de torture commis pendant la guerre d'Algérie. En adhérant à l'association 4ACG, Gilles a pu commencer à parler, à vider son sac, comme on dit, et par la suite, il s'est rendu dans les écoles et a raconté aux jeunes ce qu'il a vu de la guerre d'Algérie. Depuis maintenant 22 ans, Bernard Gerland, lui qui en a aujourd'hui 78, joue une seule et unique pièce de théâtre. Elle est intitulée « Ma guerre d'Algérie ». Dans les écoles, les petits théâtres de Lyon ou de la région, il revit ses mois passés à combattre les Algériens et revient sans cesse sur ce même jour où il a commis l'irréparable. Avant cela, Bernard Gerland a été ouvrier, délégué syndical et aussi instituteur. On les écoute donc tous les deux raconter ce qu'ils ont fait à la guerre. Un reportage de Thibaut Cavaillès.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Gilles Champin, je suis retraité paysan. J'ai 80 ans. J'avais 17 ans quand on a parlé de la guerre d'Algérie. Et en 57, j'avais 20 ans. Et c'est là que mon tour est arrivé. Et je suis parti pour l'armée. De l'Algérie, je ne connaissais rien, je n'avais pas de conscience politique. Non, je savais que c'était un département français, grand comme quatre fois la France. Mais la révolte des Arabes, je ne connaissais pas. Je ne savais pas pourquoi, d'abord, ils se révoltaient. Quoi. J'arrive au mois de janvier là-bas, il faisait froid, les nuits étaient très froides, et je suis muté dans un village où il y avait une section de 20 hommes. Et là, on m'attribue un aftrak. L'aftrak, c'est un semi-chenillé, blindé, avec radio, mitrailleuse et tout. Et on me donne un pistolet mitrailleur avec des cartouches. Notre rôle, c'était de contrôler les habitations et l'identité des habitants. En fin de matinée, nous rentrons sur le bord du chemin, on arrête une personne. On la contrôle, on demande ses papiers, on la fouille et on lui met les menottes. De suite, on le charge dans le véhicule que je conduisais. Arrivé au poste où on était, la section, on descend ce monsieur, on l'attache au pied du porte-drapeau. Privé de repas, il repartira l'après-midi avec une escorte. Et je devinerai plus tard qu'il avait rendez-vous avec ce tortionnaire. Le soir, il est revenu. Le chef de section m'interpelle, étant donné que j'étais le dernier arrivé dans la section. Il me dit « Champin, tu l'attaches au bas du mirador ». Je ne reconnaissais pas la personne du matin, tellement il était défiguré. Et on m'avait donné un cordage pour l'attacher. Je ne pouvais pas serrer les liens, j'étais désemparé. Nos regards se sont croisés. J'ai vu dans ses yeux qu'il demandait de la compassion. Mais j'étais sous pression, je pouvais plus. Un petit chef est venu, il m'a balancé en me disant que t'as traité de gonzesse et je suis parti. Le lendemain matin, mon chef me dit « démarre l'Aftrak, le véhicule ». Et on a chargé ce monsieur, ce prisonnier, tellement gelé qu'il était impossible d'avancer, il était frigorifié, c'était au mois de janvier. Et nous sommes partis sur le lieu de son arrestation. Nous sommes arrêtés, le chef nous ordonne de le tirer du camion, on l'a tiré. L'interprète lui dit « Tu fais ta prière, tu vas mourir ». Le temps de s'en remettre à Allah, une balle lui a fait sauter la cervelle. Pour moi, c'était un attentat. On venait de tuer un homme sans défense, sans justice. C'était pas. Il n'était pas armé, il était. Bref. Le soir, j'ai repris la garde, j'ai pleuré. Je comprenais plus. J'avais peur du chef. J'ai peut-être passé un mois dans cette section. Et ma section a été dissoute. Je suis revenu au PC du bataillon. Et comme par hasard, je suis muté au deuxième bureau. Deuxième bureau, c'est l'endroit où on rassemble les prisonniers, les suspects qui deviennent prisonniers et qu'on essaie de faire parler par tous les moyens. Alors là, à mon tour, bien qu'étant que chauffeur, je fus un jour interpellé en disant qu'il fallait que je suive le chef. Je suis descendu. C'était un trou qui était dans le sol. Il y avait une trappe pour descendre. Et j'étais surpris quand mon chef il m'a dit « Suis-moi, viens ». Je découvre un homme qui était nu sur une serpillière mouillée. Les quatre membres attachés. Et il y avait une machine qu'on appelait une gégène. C'est un poste qui dégageait de l'électricité. Et ce monsieur était branché sur les parties intimes. Et on m'ordonnait de tourner et d'arrêter. Et je tourne et j'entends les premiers cris. Je ne pouvais pas regarder ce supplice, mais j'obéissais aux ordres. Et puis mon chef, il me dit « Poursuis !» C'est comme ça. Et puis moi, je tremblais tellement. Crois-moi que quand je suis sorti, je suis parti tout de suite, j'ai trouvé un terrain. Ouf, hein. Ce monsieur, ben, finalement... Il n'était même pas récupérable quand il est sorti de cette... Et le soir, chauffeur de jeep à l'époque, on m'avait donné une jeep, on l'a monté dans le véhicule, et on est parti sur un terrain nu, assez loin du village, et on l'a descendu, quoi. Je dis « on » parce que je me souviens plus si c'est le chef ou... Mais j'étais présent, et ce que j'ai trouvé très dur, c'est... Quand on revenait de ces corvées de bois, qu'on appelait ça une corvée de bois, on n'en parlait pas à la section. C'était un système, on rentrait dedans. On n'avait même pas le temps de réfléchir. Je suis tombé dans un guet-apens, j'appelle ça moi. C'était pas nous de faire ça, si c'était à personne de faire ça, mais Et alors, le soir, tu rentres ça avec la conscience, tu te couches. J'ai fait malgré moi, sans savoir, sans. Je me dis, mais non, je suis pas responsable. J'ai répondu aux ordres, oui, en tournant la manivelle, si tu veux. Et puis après, en acceptant d'aller conduire les gens dans le corvée de bois. Sincèrement, j'ai pas tiré un coup de fusil. Les 200 cartouches qu'on m'a données, je les ai rendues. Sauf. Ah oui, il faut que je raconte ça quand même. C'était à Noël. On avait fêté Noël, c'était un repas copieux, c'était dimanche. Il y a un message qui arrive, une alerte, en disant que les gardes des transmissions sont tombés en embuscade. On arrive sur le devoir, on voit les copains qui étaient morts. J'avais une mitrailleuse sur la jupe. Mon chef, il me dit, tu tires tout ce qui bouge. J'étais prêt à tout. Ma conscience était complètement... Le fait de voir deux copains, il y a de la vengeance, c'était là. J'étais prêt à faire n'importe qui. J'essaye ma mitrailleuse à s'enrayer. Dieu merci. Le problème, c'est que des copains à côté, qui avaient aussi été armés, ils ont fait le travail à ma place. On est allé sur les lieux. C'est des femmes et des enfants qu'on avait allongés, qui étaient morts. Des innocents. Je me dis, qu'est-ce qui m'a protégé, le fait que ma machine s'est enrayée. Je dis merci, quoi. Mais ça résout rien. Les autres ont fait le boulot, quoi.
Et vous étiez prêt à le faire?
Ah, j'étais prêt à le faire. Parce que ça change tout. Quand tu vois des copains que tu voyais tous les soirs, on trinquait ensemble, et puis tu sais que on les a ramenés comme on a pu, quoi. Sur des brancards, quoi. Moi, je pensais échanger. Je pensais échanger avec mes copains d'ici. Le premier dimanche, je vais à la messe, je retrouve plein de gens que je connaissais pas, que j'avais pas vu depuis déjà plus de 2 ans, quoi. Et je croyais que j'aurais été interpellé pour. Sur l'Algérie, sur la guerre, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as vu. Il dit pas un mot. Finalement, on s'est tu. Même chez moi, quand mon père est venu me chercher à la gare de Clisson, à mon retour, pas de questions sur mon passé.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Bernard Gerland, j'ai 78 ans et je suis un ancien d'Algérie, un ancien de la guerre d'Algérie dans l'armée française. J'en suis pas fier, mais c'est comme ça, donc voilà. En 54, j'avais 15 ans, donc j'entendais parler de la guerre d'Algérie, mais j'étais persuadé que j'irais pas, évidemment, puisque... En 5 ans, j'aurais 20 ans, ça serait fini. Et puis au fur et à mesure que l'âge avançait, ben, je m'y suis intéressé un peu plus. J'ai lu des journaux, je disais témoignages chrétiens à l'époque. J'ai lu aussi le livre de Germaine Tillon, L'Algérie en 1957. Et quand j'ai passé le conseil de révision, ou les 3 jours, ce qui n'existe plus maintenant, puisqu'on était appelé au service militaire, j'ai demandé Madagascar pour ne pas aller en Algérie. Parce que il n'était pas question pour moi d'y aller, d'abord parce que je me disais comment je vais revenir. Et deuxièmement, j'étais contre cette guerre. Les lectures que j'avais faites m'avaient montré que ça me paraissait injuste et il me semblait que le peuple algérien devait un jour ou l'autre être indépendant. Mais c'est surtout que j'avais pas le courage de partir à la guerre, quoi. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Et à 20 ans, j'ai été incorporé. C'est-à-dire apprendre à tuer et à me défendre. C'est ça, les classes militaires. Et comme j'étais un petit peu instruit, puisque j'étais instituteur et que j'avais le niveau du deuxième bac, on m'a tout de suite proposé de faire les EOR, surtout que j'étais dans un régiment d'Auvergnats. Les EOR, c'est l'école d'officiers de réserve. Ou à défaut de faire un peloton de sous-officiers, et j'ai dit non. Pourquoi ? parce que j'étais contre cette guerre, je l'ai dit, je trouve qu'elle est inutile, injuste, et je veux pas être gradé, je veux bien faire le service militaire puisque c'est obligatoire, mais voilà. Bon, ben on m'a dit très bien, au bout de 4 mois, on m'a dit, ben vous partirez en Algérie par le premier bateau. Donc je suis parti. Très bien, puisque c'était un épisode de neige. Il neigeait à Marseille, il neigeait en Algérie, il neigeait à Alger, il neigeait dans les montagnes. Et alors j'étais dans un village regroupé, c'est-à-dire un village où on avait regroupé des gens dont on avait brûlé ou rasé les hameaux, et qu'on avait regroupé sur un col pour mieux les isoler des bandes de l'armée algérienne qui étaient dans les maquis. Alors, ce qui me plaisait, c'est que j'étais en contact avec les Algériens. J'étais un peu naïf, parce que j'y allais souvent sans armes dans le village, bon bah voilà. Et puis la nuit, je faisais l'inverse, c'est-à-dire j'allais en embuscade pour essayer de traquer des bandes de l'armée algérienne qui venaient se ravitailler au village. Donc je participais à des grandes opérations. Notamment, 15 jours après, je me rappelle, parce que c'est là où j'ai perdu, non pas qu'il soit mort, mais qu'il était blessé, un de mes bons copains, avec qui j'étais en intimité politique contre cette guerre, et en intimité religieuse aussi. Alors lui, il était devant dans cette opération, moi j'étais à l'arrière, et ben il était blessé, il a reçu une rafale dans le ventre. Et donc là, je me suis retrouvé, j'en ai pas eu conscience sur le moment, mais j'en ai eu conscience après. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de penser, on va dire. Jusqu'au moment où un supérieur, qui était relativement sympathique, enfin, puis pas un guerrier, va-t'en guerre, m'a dit, il faut que vous fassiez le peloton de sous-officier, quoi. Je me suis dit, pourquoi pas, dans le fond, oui. Et puis, il y avait la paye, pourquoi pas. Voilà, donc j'ai accepté de faire le peloton de sous-officier. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre un petit peu les pédales sur mes bases politiques du départ. Mais sans avoir conscience de tout ça. Et j'ai porté le galon de sous-officier. Je suis donc devenu ce qu'on appelle sergent, c'est-à-dire le premier galon, le premier grade des sous-officiers. Très rapidement, j'ai été versé dans une ARCA. C'est-à-dire une section opérationnelle de Harki. J'avais la responsabilité d'un groupe, il fallait faire face. Il y a longtemps que j'avais oublié le bouquin de Germaine Tillon, il y a longtemps que je ne lisais plus Témoignages chrétiens. J'étais dans le vide et dans l'anesthésie de la pensée. Je faisais la guerre. J'avais été moniteur de colonie de vacances dans ma tendre jeunesse. Et je retrouvais un peu ça, quoi. Petit leader d'un petit groupe, on va dire les choses comme ça. Je suis peu à peu, sans m'en rendre compte, entré dans la guerre et épousé les objectifs de l'armée française. Voilà.
Et donc un jour, Bernard, vous ramenez donc un prisonnier.
On le ramène pas, on le met hors de combat et puis on passe à autre chose. Et le prisonnier, il est récupéré par les responsables du bataillon et emmené, puisque c'était un chef, pour qu'on lui tire des renseignements sur ses camarades et les activités de son groupe, probablement. Et puis un beau jour, ben, on nous le ramène, sous-entendu pour qu'on l'exécute, puisqu'il n'y avait plus rien à faire avec ce prisonnier, puisque c'était là une manière générale de l'armée française, d'exécuter les prisonniers une fois qu'on leur avait soutiré tout ce qu'on pouvait leur soutirer quand ils ne mouraient pas sous la torture. Il y avait des tas de manières d'exécuter les gens. Depuis ce qu'on appelle la corvée de bois, qui consistait à faire croire aux prisonniers qu'on l'emmenait ramasser du bois dans la forêt et puis qu'on l'exécutait dans le dos, jusqu'aux crevettes de Bichar, où on scellait les prisonniers dans un bloc de ciment, dans un hélicoptère, et puis qu'on les balançait sur terre ou dans la mer. C'est ce qu'on appelle les crevettes de Bichar. C'est Bichar qui avait instauré cette manière d'exécuter les gens. Il y avait autant de manières d'exécuter les gens que la barbarie humaine peut imaginer. Tant que je n'y ai pas été affronté, j'en pensais rien parce que je ne pensais plus grand-chose. Et puis, j'y ai été confronté subitement. Et il se trouve que c'est moi-même qui ai eu à commander cette corvée de bois. Voilà. On nous amène le prisonnier. Le commandant chef de l'arc n'était pas là. Donc, on s'est regardé. On a compris que c'était le moment de l'exécution de ce prisonnier. Et puis, moi, ce qui s'est passé dans ma tête, là, c'est l'image du tonneau. C'est-à-dire, vous savez, l'expression « on vide le tonneau jusqu'à la lie ». C'est cette image qui m'est venue dans la tête. Et ben, pendant que j'y suis, pourquoi pas moi ? Et puis, en plus, j'avais conscience que c'était un sale truc. Tant que c'est moi qui la fasse que les autres, quoi. Je me suis presque porté volontaire jusqu'au moment où il y a un consensus qui s'est fait. Ben, si tu veux y aller, vas-y. Voilà, ça s'est passé aussi bêtement que je le dis. Et puis on lui a dit, ben voilà, maintenant, marche. Et puis, on a exécuté le prisonnier comme, j'allais dire, comme prévu, dans le rituel des corvées de bois, lâchement dans le dos. Et bien sûr, comme on n'était pas en guerre, officiellement, puisqu'on n'était pas en guerre, ben, il fallait officialiser ça. Donc, on était à la gendarmerie après, pour faire une déposition. Fausse, bien sûr. On était dans la montagne et le prisonnier a voulu s'évader et donc on l'a poursuivi et on l'a abattu. Voilà, c'est ce qu'on a déposé à la gendarmerie et qu'on a signé.
Vous vous rappelez du prisonnier ?
Ah ben bien sûr. Oui, mais bien sûr, je me rappelle très bien de son visage. Oui, bien sûr, évidemment. Et quand j'ai relu mon livret militaire, après, j'ai mieux compris comment j'avais dérivé. C'est clair, je vais carrément vous les lire. C'est le journal de mes affectations. Il y a le nom d'ailleurs des supérieurs qui signent là. Hein. Au début, on dit « assez bon élément ». Serait capable de faire un petit gradé, mais ne s'en donne pas la peine et ne veut pas être gradé. Après, on dit « très bon élément », « sérieux », mais paraissant manquer d'autorité, manque de dynamisme. À surveiller du point de vue esprit. Et en finale, ce sous-officier semble avoir trouvé son équilibre dans cette fonction, a été très apprécié de ses harkis et de ses supérieurs depuis quelques mois. Quand j'ai retrouvé ça, ça m'a beaucoup éclairé sur le cheminement de ma conscience et du coup de mon comportement, et ça m'a expliqué que j'ai pu aller jusqu'à l'exécution d'un prisonnier au cours d'une corvée de bois. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai réalisé, que j'ai commencé ma phase de résilience, qui a commencé par la rupture du silence. Et j'avais une telle envie de poser le bagage que j'en ai parlé à un de mes gendres. Mais il a fallu 24 heures de crapahut dans la montagne pour qu'à un moment je lui dise « Faut que je te dise un truc. »« Ah bon ?» Tu veux me dire. Ben voilà, paf, j'ai lâché le morceau. Et il se trouve que dans un atelier de clown, où nous travaillions en improvisation sur la mort et la violence, mon gendre m'a dit, « Ben là, faut que tu dises quelque chose, quoi. » Et là, pour la première fois, je leur ai dit, ben voilà, j'ai tué un homme. Jusqu'au moment où, un peu malgré moi, malgré ma famille, c'est quand même venu en public. Et chaque représentation est pour moi une occasion de parfaire la résilience. Voilà.
Well, you're my friends, and can you see
C'était À la guerre, j'ai tué, un reportage de Thibaut Cavaillès réalisé par Philippe Baudouin avec un coup de main de François Connac et diffusé pour la première fois le 27 novembre 2017 que je vous propose de réécouter à l'occasion notamment du prix Bayeux des correspondants de guerre. Merci à Bernard Gerland et à Gilles Champin ainsi qu'à Rémi Serre, l'un des fondateurs de la 4ACG. C'est Mélissa Fous, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est également Aurélie Marseille.
Well, you know I have a love for everyone I know. And you know I have a drive to live, I won't let go. But can you see its opposition comes rising up sometimes? Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives, together or apart, alone or with our wives. And we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see.